Tes combes. Cœur lassé. Première partie. Chapitre 1. Antoine Jacquier et son père se promenaient lentement dans les trois jardins qu'enserraient les groseilliers et, à chaque détour de l'allée sinueuse qui revenait sur elle-même, se tordaient puis couraient vers la haie opposée comme pour chercher une issue. Antoine se disait que sa vie, à lui, rencontrait là une image fidèle. Marcher à pas comptés dans la monotonie, soutenir un père triste et las, se heurter partout à des haies, à des limites. Point d'espace pour les grands élans, point d'horizon. Du haut d'un petit balcon découpé à jour, sa belle-mère surveillait leurs lentes évolutions parmi le fouillis des rosiers et des pieds d'alouette. Elle aussi, avec sa voix douce et dolente, avec ses petites phrases inquiètes, tracassières, prenait place dans cette image instantanée, dans ce raccourci d'années très longues qu'Antoine Jacquier évoquait non sans amertume.
« Cher ami, tu devrais rentrer, tu t'enrhumeras. Antoine, dis donc à ton père qu'il devrait rentrer. Tu m'entends, Antoine ? »
faisait-elle en se penchant au-dessus des balustres de bois et agitant mollement une petite main trop potelée.
« Oui, maman, je vous entends bien, » répondit-il sans lever la tête. « Mais tu n'en tiens pas compte suivant ton habitude. Très bien, enrhumez-vous si cela vous amuse. Il n'y a pas 2 heures qu'il pleuvait à verse. Le gravier est encore tout humide. »
Accoutumés à cette petite douche incessante de paroles plaintives, le père et le fils continuèrent leur promenade lente et leur entretien. « Je serai obligé de me décharger sur toi de la classe du soir qui me fatigue trop, » disait le père. « Peu à peu, Antoine, toute la tâche aura passé sur tes épaules. C'est ce que je souhaite, d'ailleurs, car alors ton avenir sera assuré. Celui de Zéline également. N'oublie pas, Antoine, n'oublie jamais notre dette à son égard. » Et les yeux du père, timides, inquiets, presque suppliants, interrogeaient le visage à demi détourné, un jeune visage tout assombri d'orageuse impatience.
« Tu me vois décliner chaque jour, Antoine, mais tu sais que je ne regretterais aucunement la vie si tu me promettais, si j'étais sûr.
« Je ferai mon devoir envers ma belle-mère, » répondit Antoine d'un ton froid.
« Ton devoir, ce n'est pas assez. Que tu le veuilles ou non, je te lègue ma dette et je m'en irai tranquille si tu me disais « Mon père, je la prends comme mienne. »
« Quant à cela, » exclama Antoine. Mais il s'interrompit. Il sentait trembler sur son bras la longue main sèche qui s'y appuyait. Alors, de ses doigts vigoureux, il la couvrit, il la pressa affectueusement.
« Laissons ce sujet. Je t'ai prié 100 fois de te mettre là-dessus l'esprit en repos. »
Son père secoua la tête. Cet homme affaissé, dont la haute taille, dont les épaules tombantes se courbaient comme sous un fardeau, était un vaincu de la vie. Cela se devinait à ses yeux mornes, à ses lèvres sans cesse agitées de quelques mouvements irrésolus. L'obsession d'une pensée morbide se lisait dans le regard presque furtif, un regard qui, par moments, semblait demander pardon.
« Tu es trop indépendant, Antoine, trop indépendant !» reprit-il avec une ténacité irritante. « On est ainsi dans la jeunesse. J'ai commencé par là, moi aussi, j'ai dû en rabattre. Nous ne sommes pas indépendants, Antoine, nous sommes solidaires. Ce n'est pas moi qui ai fait cette loi, mon pauvre garçon. Elle s'est faite toute seule, je suppose, car c'est elle qui lit le monde dans toutes ses parties. Tu es solidaire de moi, de mon passé, de ton entourage. » Et tu as beau t'agiter, te démener, jamais tu ne casseras cette corde-là. » Puis, quittant le ton monotone et didactique qu'il prenait pour débiter ses axiomes trop familiers aux oreilles d'Antoine, il s'interrompit et dit d'une voix émue « Elle t'aime beaucoup, Antoine. Elle t'aime comme son propre enfant. Tu as pris la place de son fils, tu le sais, depuis le jour. »
« Père, s'écria-t-il avec impatience cette fois, est-il bien utile de déterrer chaque jour ses vieux souvenirs, ses odieux vieux souvenirs ? Laissez le passé tranquille, le présent est assez lourd à porter. »
« Ne te fâche pas, Antoine, ne te fâche pas !» implora le père, qui semblait redouter toute explosion un peu vive, comme un être meurtri craint les heurts. « Je ne dirai plus rien puisque cela t'exaspère. » Il est bien naturel pourtant que je laisse voir à mon fils, à mon seul fils, ce qui me pèse sur le cœur.
Ah, par exemple, exclamait Madame Jacquier là-haut sur son balcon, d'où elle apercevait comme d'un belvédère tous les chemins avoisinants.
Est-ce bien croyable? À 6 heures du soir. Nos locataires, cher ami, nos locataires qui arrivent, à 6 heures du soir. Ils n'auront jamais le temps de monter leur lit pour s'y coucher cette nuit.
Mais regarde donc, Antoine, c'est bien une voiture de meubles tout au bout du chemin, avant les frênes.
Ils ont eu tort de prendre la vieille route. Jamais ils ne se tireront des ornières, dit Antoine, s'avançant jusqu'à la haie. Les deux petites maisons jumelles, blanches sur leur large toit en bardeaux gris, se tenaient au bord du grand pré vert comme deux gentilles sœurs, protégées chacune par un frêne immense, antique, velouté de mousse sombre. Chacune avait son jardin, son balcon de bois, ses volets bruns, mais l'une des deux maisonnettes, très éveillée, semblait regarder de ses yeux grands ouverts, tandis que l'autre, toute close, dormait. Les deux façades, du côté du jardin, n'avaient que des fenêtres. La porte d'entrée s'ouvrait derrière, au nord, sur une petite cour dallée commune aux deux maisons, et dans un coin de laquelle, sous un peuplier toujours tremblant, coulait la bavarde fontaine. Donc, pour arriver à la porte d'entrée, il fallait sortir du chemin fort creusé, fort raboteux, et franchir l'angle de la cour, dont le dallage était sensiblement plus élevé que les ornières voisines. C'était une grosse affaire. Antoine, considérant l'édifice branlant qui se profilait là-bas sur le vert du pré, douta qu'il pût arriver à bon port. Les voilà arrêtés. Ils sont pris. L'homme qui tient les chevaux devrait tirer à gauche. Il tire à droite au contraire. Le char versera. N'irai-je pas leur donner un coup de main ? Fit Antoine avec vivacité, dégageant son bras des faibles doigts de son père, désireux de le retenir. La lenteur de la promenade, la monotone tristesse de l'entretien l'avaient crispé. Il éprouvait le besoin de se détendre par quelque violente activité physique. Dans le chemin raviné, qu'encadraient des talus fleuris couronnés de buissons, un étonnant véhicule, pareil à quelque pagode ambulante, venait de faire halte. Des matelas, des tables, une commode, un canapé, entassés au petit bonheur et défiant avec crânerie toutes les lois de l'équilibre, en formaient la structure, tandis que des casseroles, des écumoires suspendues à ses flancs, tintaient aux secousses et se balançaient. Tout au sommet de l'édifice, dans un vieux fauteuil, trônait une femme d'une cinquantaine d'années, blonde, pareille à la déesse d'un char allégorique. De loin, Antoine, qui ne pouvait encore distinguer ses traits, l'entendait chanter d'une voix allègre « Moi, j'aime mieux mon bateau, tra-la-la-la-la, ma chaumière au bord de l'eau. »
« On pourrait s'y croire en bateau » cria-t-elle, s'interrompant tout à coup. « Comme ça penche, comme ça branle ! Donnez-moi la main, cousin Daniel, je veux descendre !»
En deux sauts, elle fut sur le chemin, mais son fauteuil descendit avec elle et tomba au milieu des buissons. De grands éclats de rire se firent entendre et Antoine distingua alors, entre les roues, les pieds pendants de 4 jeunes filles groupées à l'arrière du char. Les deux chevaux, enchantés de cette halte, allongeant le cou vers le talus, essayaient, malgré leur mort, de brouter quelques brindilles. Frère Ananias, disait un homme de 60 ans environ, maigre et voûté, et qui tenait un des chevaux par la bride, « L'affaire est mauvaise, l'affaire est mauvaise !» Il souriait d'un air à la fois débonnaire et perplexe, et se frottait le menton lentement.
« Frère Daniel, c'est ta faute !» répondit l'autre vieillard, un peu plus âgé que le premier, point débonnaire celui-là, mais rageur au contraire, et tout hérissé.
« C'est ta faute, frère Daniel !»
« Je ne dis pas le contraire, mais les ornières y sont bien aussi pour quelque chose, » fit doucement le frère Daniel. « Je propose d'alléger le char, si ça ne vous dérange pas trop, fillette. »
Au moment où les 4 jeunes filles mettaient pied à terre, jasant et riant comme de folles petites pies, Antoine fit son apparition sur la scène. « De loin, nous vous avons vus arriver, » dit-il, soulevant son chapeau, « et il nous a paru que vous aviez besoin d'un coup de main. » La route est mauvaise. Sans autre cérémonie, il prit la tête du cheval de gauche, évinçant de son poste le frère Ananias, qui aussitôt se rebiffa. Hé, jeune homme, hé, vous ne vous gênez guère, il me semble. C'est bien le moment de vous fâcher, cousin, cria la petite dame réjouie, quand un gentil garçon nous tombe du ciel comme une noix au nouvel an pour nous tirer du mauvais pas. Ananias, voulant montrer qu'il n'abdiquait point, fit claquer son fouet très fort. Le pacifique Daniel exhorta doucement les chevaux, Antoine courut à la roue, la poussa d'un vigoureux coup d'épaule, tandis que l'attelage essayait un nouvel effort. Tout le monde cria « Hu et courage !» La pagode s'ébranla, avança d'un pas, sortit de l'ornière. Pour s'associer plus librement à cet épisode, les quatre jeunes filles avaient déposé à l'ombre du talus, sous les noisetiers, les objets fragiles confiés à leur garde, un vase à fleurs en gros verre bleu, une théière de porcelaine, un miroir, une guitare, un cadre doré renfermant des fleurs mortuaires nouées par un ruban de satin jauni. La petite femme blonde, ayant remis sur pied le malheureux fauteuil, s'y était tranquillement installée parmi les buissons. Des deux mains, elle repoussait sous son chapeau ses bandeaux cendrés qui ondulaient et frisottaient aux tempes, et comme le miroir était à sa portée, debout contre le talus, elle se penchait de temps en temps pour donner un coup d'œil à son visage. Vous voilà hors d'affaire, dit Antoine, mais il y a encore l'entrée de la cour qui sera malaisée. Qui êtes-vous bien, jeune homme, pour vous remercier mieux ? Fit le cousin Daniel de sa voix débonnaire. Mais le fils du propriétaire, fit Antoine, qui se troubla tout à coup en sentant quatre paires d'yeux très curieux, très pointus, le percer d'outre en outre. Les quatre sœurs, au premier abord, semblaient être presque du même âge. Trois d'entre elles ressemblaient à leur mère, elles étaient blondes et piquantes. La quatrième, brune de peau et de cheveux, avait des yeux très grands, très clairs, frangés de cils noirs, des yeux singuliers, couleur d'acier, mais transparents et qui faisaient penser à deux étangs limpides, le soir, dans les champs déjà sombres. Ce mot malheureux, fils du propriétaire, échappé à sa gaucherie d'adolescent que des jeunes filles regardent, égayait le petit escadron féminin qui chuchotait maintenant et se poussait du coude. « Mes filles, soyez sages !» cria leur mère, se levant d'un petit mouvement vif et secouant sa robe pour la dégager des branches épineuses. « Monsieur Jacquier, puisque vous êtes Monsieur Jacquier, achevez la bonne œuvre de nous mener chez nous. Nous n'y arriverons jamais si on laisse faire le cousin Ananias, » ajouta-t-elle d'un ton de confidence, tout près d'Antoine et lui posant sa main sur le bras. Ce geste familier, loin de déplaire à Antoine, lui gagna le cœur d'un coup, sans qu'il sût bien pourquoi. Un rien, une inflexion de voix cordiale et naïve, des yeux rieurs, simples comme des yeux d'enfant, firent la conquête instantanée de ce grand garçon un peu farouche, qui n'avait jamais payé d'un atome d'affection les tendresses larmoyantes de sa belle-mère. Il sourit, puis courut reprendre la tête des chevaux. Aussitôt, les quatre jeunes filles ramassèrent leurs bibelots éparpillés dans l'herbe, la plus émoustillée se chargeant du tableau mortuaire, et leur blonde maman ferma la marche avec la guitare. De chaos en chaos, on finit par arriver, on tourna heureusement l'angle de la cour. La lourde voiture, avec de grands balancements comme d'une barque sous un coup de bise, et parmi des exclamations, des cris, car toute cette famille était tumultueuse et dramatique, la lourde voiture s'éleva hors de l'ornière jusqu'aux dalles glissantes sur lesquelles les sabots des chevaux faisaient feu. Le cousin Ananias claqua de son fouet encore une fois pour la clôture. Un soupir de soulagement marqua la seconde où les quatre roues s'arrêtèrent devant la porte. Cette manière aventureuse et enfantine de déménager, cette arrivée presque à la nuit tombante, se laisser aller, cette gaieté et cette confiance dans le hasard obligeant, amusait Antoine. Il était touché en même temps d'une pitié protectrice, mais point méprisante, pour cette petite caravane qui naïvement s'en remettait à lui. Ce n'est pas tout, dit Madame Beausire. Il va falloir décharger maintenant. Les gros meubles sont trop lourds pour vous, cousin Daniel. Qui donc vous a aidé à les charger ? Demanda Antoine. Mais les voisins, tout le monde. on n'imagine pas ce qu'il y a sur cette terre de gens obligeants. Pour moi, depuis le jour où mon mari m'eut abandonnée, il n'avait pas un mauvais caractère, mon pauvre mari, mais il était léger, léger, et où je revins chez mes parents, avec trois petites filles pendues à ma jupe et Lulette dans mon tablier, j'ai fait l'expérience que ce monde est couvert de gens obligeants. Sans vous, par exemple, monsieur Jacquier, nous aurions dormi ce soir à la Belle Étoile.
C'est ce qui nous arrivera encore, cousine, grommela le cousin Ananias, si nous continuons à discourir au lieu de travailler. Il faut que Daniel ait reconduit la voiture et les chevaux avant la nuit noire.
Encore un détail que j'oubliais, fit gravement madame Beausire. Voyez quelle tête est la mienne. Une tête de chou, une vraie tête de chou. Il est évident que les chevaux ne peuvent passer la nuit ici. Où les mettrions-nous? Pas dans la commode, toujours.